Quatrième épisode du Café Bien-être en compagnie de Anne-Marie et Michel sur le thème aujourd'hui « Comment prendre soin de soi quand on est malade ?»
Bonjour.
Bonjour à tous. Alors, nous avons choisi ce thème car en fait, nous sommes tous déjà tombés malades. Un simple rhume, une grippe, une fatigue intense. Et dans ces moments-là, une question revient souvent. Est-ce que je prends vraiment soin de moi comme il le faudrait ?
Alors Anne-Marie, je vais me référer à Platon qui déjà à l'époque nous disait « Les maux du corps sont les maux, M-O-T-S, de l'âme. Ainsi, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Hein, » un véritable précurseur. Alors, tout simplement parce que l'être humain, c'est un être... Alors comme on dit, hein, bio, psycho, social, spirituel et affectif, c'est-à-dire que c'est un tout et que chaque niveau interagit avec les autres. Alors quand on est malade, il est important de prendre soin des autres niveaux pour rétablir un équilibre global. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'occuper que d'une partie, puisque l'être humain est un tout et que tous ces niveaux interagissent. Et on se rend compte que beaucoup de personnes minimisent la maladie. Alors on continue à travailler, on ignore les signaux du corps, on pense que ça va passer. Combien sommes-nous à être allés travailler alors que nous étions malades ? Bon, alors bien sûr, quelquefois il y a des choses importantes qui dépendent de nous. On ne peut pas toujours se dérober, on ne peut pas toujours s'arrêter. Mais mis à part ces moments, le plus souvent ce n'est pas le cas. Et on pourrait simplement s'arrêter ou alors ralentir un peu. C'est ça l'idée. Alors voilà, comment prendre réellement soin de soi quand on est malade et puis pourquoi ? Aussi pour guérir plus vite, hein, éviter les aggravations, s'accorder du temps, de la bienveillance, car la maladie veut nous dire quelque chose. Et puis finalement, éviter les rechutes. Alors comment on va parler de ça ? On va d'abord voir comment prendre soin de son corps, puis pourquoi il est essentiel de s'écouter. Et enfin, en quoi le moral joue un rôle clé dans la guérison. Il y a plusieurs portes d'entrée, voilà, et nous, on va entrer d'abord par le corps. Donc, en premier, comment je prends soin de mon corps ? Et là, on peut dire que le repos est une nécessité, ce n'est pas un luxe. Quand on est malade, le corps lutte. Le système immunitaire consomme énormément d'énergie. Hein, imaginez quelqu'un qui a la grippe, mais qui décide quand même d'aller travailler. Alors la personne va se lever tôt, malgré la fatigue. Il faut rester concentré toute la journée, alors que la personne ne dort pas suffisamment. On va avoir en résultat que souvent, la maladie va durer plus longtemps, que les symptômes peuvent empirer, qu'il va y avoir des difficultés de concentration, et puis sans compter qu'on risque quand même de contaminer les autres. Donc ça, c'est aussi un vrai problème. Si, à l'inverse, on décide de ralentir, de s'accorder du repos, on va récupérer plus vite, on va éviter les complications, et on va revenir en meilleure forme. Donc, se reposer, ce n'est pas être faible. C'est aider son corps à se battre, c'est permettre à son corps de se ressourcer en diminuant les sources de stress. Et du coup, les défenses immunitaires, elles peuvent se régénérer et on va être plus efficace, hein, le corps va être plus efficace face aux virus ou aux bactéries. On est quand même dans une société où il faut être battant, où il ne faut jamais être malade, où il faut toujours être au top. Eh oui, mais le corps, des fois, nous dit qu'il faut s'arrêter, il faut ralentir.
Il dit stop.
Voilà, il dit stop, d'une façon ou d'une autre. Alors, au Japon, ce qui est intéressant, hein, la sieste fait partie intégrante d'une journée de travail et ça permet de réduire le stress et d'augmenter la capacité de concentration. Donc, les siestes, hein, selon les personnes, ce sont des moyens de ressources en peu de temps. Alors, ça peut être 15 minutes, 20 minutes et puis ça repart. C'est un excellent allié pour prévenir le burn-out. Alors, nous, on n'a pas encore intégré ça, hein, dans nos entreprises, dans nos services. Pourtant, on voit ça, surtout oui, au Japon, mais aussi en Asie. Hein, c'est très, très intégré. Ou dans certaines compagnies américaines. Voilà. mais pas partout encore, malheureusement. Alors Anne-Marie, est-ce que tu peux nous parler aussi d'une chose importante qu'on a tendance à négliger quand on est malade, hein, c'est-à-dire l'hydratation et l'alimentation ?
Eh oui, tout à fait. L'hydratation et l'alimentation, en fait, sont deux choses très importantes, puisque quand on est malade, on perd beaucoup d'eau à cause de la fièvre et de la transpiration. Et à ce moment-là, le corps a besoin de nutriments. On va prendre l'exemple d'une personne qui a un gros rhume. En fait, on sait très bien que ce n'est pas grave en soi, hein, un rhume, une grippe. Bon, mais par contre, eh bien, à ce moment-là, on ne mange presque plus, on boit peu, et au final, eh bien, on se sent encore plus faible. Alors, maintenant, prenons le cas de quelqu'un qui boit régulièrement de l'eau, avec de l'eau, soit des tisanes chaudes, qui mange léger avec des soupes, des légumes, des fruits. Elle sera moins fatiguée parce qu'elle va apporter à son corps des nutriments dont elle a besoin. Et cela favorisera une récupération qui sera beaucoup plus rapide. Alors, revenons un petit peu sur ces soupes-là, ces soupes chaudes, qui permettent à la fois d'hydrater, de nourrir et de réconforter. Alors, on prend un petit peu de temps par rapport à ça, parce que justement, ces bouillons, quand on est fatigué, sont déjà les choses qui passent le mieux, parce qu'on n'a pas faim. Donc, léger, c'est ce qui va le mieux. Et donc, on peut à ce moment-là apporter les vitamines, les minéraux, les électrolytes dont le corps a besoin. Une des soupes qui est vraiment au top du palmarès, c'est la soupe de poulet, qui apparemment, en faisant mes recherches, est au palmarès. Et c'est vraiment un vieux comme le monde, la soupe de poulet. Et c'est vraiment une soupe qui aussi permet d'apporter les protéines dont le corps a besoin pour permettre le renouvellement cellulaire. Et les protéines sont donc indispensables à ce moment-là. Voilà. Donc, il y a cet exemple-là. Ensuite, vous pouvez aussi boire que des bouillons. Là aussi, pareil, on est toujours sur les nutriments, les électrolytes, les ions et l'eau. Je fais une petite parenthèse juste quand on est malade, mais aussi quand on ne l'est pas. Commencer sa journée par hydrater son corps simplement avec que de l'eau. Pas une infusion, pas un café, simplement de l'eau, c'est vraiment, et une eau, pas trop bouillante non plus, tiède, permet vraiment à toutes les cellules du corps de s'hydrater, voilà. Et ça, c'est vraiment un petit rituel qui pourrait s'instaurer chez chacun pour améliorer la réhydratation de nos cellules, voilà. Et ensuite, quand on boit, c'est de pouvoir vraiment boire par petites gorgées. Rien ne sert d'engloutir la tasse d'eau en entier. C'est vraiment de le faire vraiment en pleine conscience. On en a déjà parlé de cette pleine conscience. Et c'est ce qui aide justement à ce que, en s'hydratant, on le fait tranquillement. On ne peut pas oublier l'infusion au thym, au citron et au miel, qui est l'incontournable quand on a besoin de pas apporter des sucres, puisque le miel apporte du sucre, hein, mais aussi, on va le revoir dans quelques instants, un très bon antimicrobien. Voilà. Alors, juste pour terminer sur l'hydratation, il est préférable de s'hydrater en dehors des repas. Parce que quand on boit pendant le repas, alors on peut boire un verre d'eau, mais les personnes qui vont boire 4, 5, 6 verres d'eau pendant le repas, eh bien, ça dilue les sucs gastriques et donc ça ralentit le processus de la digestion, quoi. Voilà. Alors, pour conclure, par rapport à cette eau, c'est vraiment l'élément clé de la lutte contre presque toutes les maladies. Maintenant, concernant l'alimentation, On l'a déjà dit, quand on est malade, on perd l'appétit, voire le désir de boire, et c'est généralement le signe que son système immunitaire fonctionne à plein régime. À ce moment-là, il est important d'avoir une alimentation équilibrée pour accélérer le rétablissement, augmenter votre niveau d'énergie et contribuer à renforcer votre système immunitaire. Donc, vous pourrez ainsi consommer de la vitamine C que l'on trouve dans les fruits et les légumes. Donc, bon, inutile de citer les oranges, le citron et tout autre légume en fait et fruits. C'est un puissant antioxydant qui soutient les cellules immunitaires dans la prévention et la lutte contre les infections. Ainsi, la vitamine D pourrait, quant à elle, renforcer les réponses immunitaires et diminuer la durée de la maladie. Vous en trouvez dans les poissons gras, les champignons, notamment le saumon, qui est l'une des meilleures sources de protéines à manger en étant malade. En effet, que ce soit le saumon ou les poissons dits blancs, eh bien, ils sont beaucoup plus digestes quand on est malade qu'un steak quand on est fatigué, il ne passera pas, quoi.
Ça peut surcharger aussi le
corps. Au niveau le corps et le foie.
Oui,
tout à fait.
Il peut avoir des difficultés du coup à éliminer la surcharge.
Et exactement, exactement. C'est plus léger à digérer. Alors, dans les herbes médicinales, nous avons aussi l'ail, donc qui depuis des siècles est connu dans la Grèce antique. L'ail avait déjà sa réputation. Il possède des effets antibactériens, antiviraux et antifongiques. Donc, il peut aussi stimuler le système immunitaire et en consommer tous les jours est aussi efficace en termes de prévention. Petit aparté, surtout pas pour nos animaux domestiques. Mmh. Voilà, je le dis, surtout pas. Et oui, ça peut les tuer. Hein.
Ouais, c'est comme voilà. Le chocolat, il paraît.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, dans la même catégorie, le gingembre. Alors lui, il est plus reconnu pour ses vertus aux effets anti-nauséeuses. Donc, voilà, à utiliser quand... on a une gastro, ben, ça peut aider justement à diminuer les nausées. Dans les légumes verts, à feuilles telles que les épinards, la laitue romaine, le choucal, eux sont remplis de vitamines, de minéraux et de fibres. Et ils sont particulièrement de bonnes sources de vitamine A, C et vitamine K. Dans les légumes aussi, les avocats. Alors, eux, ils sont très riches en fibres, en vitamines, minéraux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont riches en graisses monoinsaturées. Et donc, quand parfois manger gras ne passera pas, eh bien, l'avocat, ça peut passer plus facilement avec un petit peu de jus de citron dessus ou un petit peu d'huile d'olive. Alors, je vous ai déjà parlé du miel, donc, qui est un puissant antibactérien. Et ceci grâce à sa forte teneur en composants antimicrobiens. Donc, lorsque vous êtes malade, votre envie ou votre dégoût envers certains types d'aliments ne sont pas aléatoires. Ce sont des signaux qui découlent de millions d'années d'évolution et de sélection naturelle. Si votre corps a besoin de vitamine C, vous aurez envie d'un aliment qui en convient, même si vous ne comprenez pas toujours les raisons de cette envie. Voilà, et même des fois, qu'on soit malade ou pas malade, exemple, quand on est stressé, on a envie de chocolat pour son magnésium.
Tout à fait, à ne pas donner à nos amis animaux
exactement
également.
Anne-Marie vous a parlé donc de l'alimentation, des vitamines, tout ça, elle vous l'a dit. C'est à titre de prévention, hein, attention. C'est-à-dire que là, chaque personne, en fonction évidemment de son problème de santé ou de sa maladie, va vérifier avec son médecin.
Tout à fait.
Voilà, hein, ce qui peut être bon ou moins bon pour elle. Là, ce sont des notions générales, voilà, de prévention. Alors, justement, on va faire un petit peu le point sur les traitements parce que on rencontre quand même des problèmes fréquents, hein, des personnes qui vont prendre des médicaments ou un peu au hasard avec de l'automédication, les prendre trop tôt ou vont arrêter dès qu'elles se sentent mieux. Voilà, et ça, ça peut avoir des conséquences, surtout si on prend des antibiotiques. Hein, on sait que la maladie peut revenir, les bactéries devenir plus résistantes. Donc là, il faut bien suivre les traitements, bien suivre les conseils de votre médecin. Et du coup, la guérison sera plus fiable. Hein. Alors, on l'a déjà dit, on vit dans une société où il faut toujours être productif. Et pourtant, il va falloir accepter de ralentir, de s'écouter et d'adapter son rythme. J'avais une étudiante un jour qui était malade et elle se forçait à aller en cours, elle révisait tard le soir et surtout se culpabilisait de se reposer. « Mon Dieu, je suis nulle, je ne suis pas aussi bien que les autres, j'en fais pas assez. » Alors résultat, sa maladie s'aggravait, sa fatigue s'aggravait et la guérison a été plus lente avec un stress supplémentaire. Et si elle avait décidé finalement de ralentir, de rester un peu chez elle pour se reposer, il suffisait de prévenir son entourage, ses professeurs. Bon, à part en période d'examen, on peut quand même se permettre de prendre soin de soi. Et du coup, elle aurait une récupération plus rapide avec moins de stress. Donc, on se met parfois trop de challenges. Hein, et là, le corps nous rattrape. Et il nous dit « stop ». Du coup, il va falloir ralentir et aussi créer un environnement favorable. Pourquoi ? Parce que l'environnement va influencer énormément le bien-être. On en parlait ce matin en venant dans la voiture, de se dire des fois j'ai envie de silence, des fois j'ai envie d'un peu de musique. Voilà, ça va dépendre un petit peu. Et moi qui faisais pas mal de domicile à un moment donné, j'ai vu deux genres de situations. Évidemment, il ne s'agit pas de juger ni les situations, ni les personnes, bien sûr. Mais j'ai constaté que quand l'appartement, la chambre est vraiment en désordre, qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu trop laissées aller, je dis bien trop, hein, il ne s'agit pas d'avoir un certain désordre, c'est la vie aussi, donc il ne s'agit pas de ça. Là, je parle vraiment en trop. Vous voyez, si le bruit est constant. Quelquefois, j'arrivais chez des personnes et la télé était très forte, en permanence. Vous voyez, donc ça fait du bruit. Il peut y avoir une lumière trop agressive. La récupération peut être plus difficile. Parce que toutes ces choses-là, peut-être qu'elles nous stimulent à un moment donné, mais peut-être qu'à d'autres moments, elles empêchent justement la récupération avec un certain ralentissement. Et on voit quand même que quand l'environnement est confortable, évidemment, pour la personne, la pièce plus calme, une lumière un peu plus douce, l'environnement sonore qui peut être adapté à l'état de la personne, ça va favoriser quand même la guérison. Mais bien sûr, ça doit être adapté à chaque personne. On ne peut pas en faire une généralité. Et puis, je dirais garder une hygiène de vie minimale. Hein, même en se reposant, on peut s'habiller confortablement, aérer sa chambre et on améliorera notre morale. Vous savez, souvent, quand on arrivait, les rideaux étaient tirés, la personne, elle somnolait dans un fauteuil avec, mettons, la télé qui marchait très fort. Vous voyez, des fois, ouvrir les rideaux, demander juste de baisser un peu la télé. Ou alors, j'ai vu dans certains reportages, alors ça, je vois chez beaucoup de personnes, ils mettent la télé, mais pas le son. Alors, du coup, il y a un écran avec une image. Bon, ça peut être pas mal. C'est-à-dire qu'on baisse le son. Parce que le son, ça va quand même venir nous tirer vers l'extérieur. Et quand on est malade, qu'on a besoin de récupération, en fait, il faut un peu plus s'intérioriser. Donc, c'est cette idée-là. Et puis, entre ben, je suis malade et du coup, je peux rester en pyjama, oui, pourquoi pas. Mais ça n'empêche pas d'aérer sa chambre, ça n'empêche pas de, voilà, d'avoir quelque chose de plus agréable, de plus confortable, qui va conforter le moral, parce que le moral, c'est très important pour la guérison. Et là, c'est vrai que des fois, la personne elle-même, elle ne peut pas le faire toute seule. Alors le rôle des proches, il va être primordial pour justement aider la personne, même si elle est malade, à garder une bonne estime d'elle-même, parce que la maladie nous rend vulnérables et dépendants. Je me souviens comme ça d'un monsieur qui avait eu un problème. Alors, il avait eu une opération de la vessie, hein, ce qui déjà n'est pas facile. Et il se laissait complètement aller. Il mangeait dans son lit, il ne voulait pas se laver, il ne voulait pas changer de vêtements, tout ça. Et bon, sa femme avait beaucoup de mal avec lui. Et quand les enfants sont venus, voilà, ils ont aéré la chambre. Ils lui ont dit « Non, mais tu viens, on va faire le lit, voilà, tu vas te changer, on va t'aider à prendre une douche. » Et finalement, au début, il était très grognon et il ne voulait pas se laisser faire. Et puis finalement, il s'est trouvé beaucoup mieux après. Donc là, c'est vrai que c'est difficile hein, quand on est malade, parce que son corps ne répond pas comme avant. Du coup, ça, voilà, on se pose beaucoup de questions. Il peut y avoir beaucoup d'inquiétudes, hein, même de l'angoisse. Et c'est vrai que quand on est en bonne santé, on ne se pose pas de questions. Ça semble normal, naturel. Mais quand la maladie arrive, ça bouleverse nos habitudes, notre zone de confort, notre regard sur nous-mêmes et aussi nos représentations. Je me souviens aussi d'une personne qui me confiait « Quand j'ai commencé à avoir de la difficulté à marcher, le regard des autres sur moi a changé. Certaines personnes me regardaient avec pitié et d'autres même avec mépris. J'en étais vraiment étonnée, comme si j'avais fait quelque chose de mal qui justifiait mon infirmité. » Évidemment, la plupart des personnes que j'ai croisées étaient bienveillantes à mon égard. Mais je me sentais jugée parfois, comme si j'avais quelque chose à comprendre que je ne voulais pas voir. Je crois que la maladie a quelque chose à nous dire, mais nous n'avons pas toujours la possibilité de guérir. Beaucoup de choses ne dépendent pas immédiatement de nous, comme l'environnement, le lieu de travail, les toxiques que l'on retrouve dans les maisons, dans la nourriture, dans l'environnement et aussi, je dirais, sur un autre niveau, avec certaines relations. Alors, je fais ce que je peux pour modifier les choses dans ma vie, mais je ne veux pas me sentir coupable d'être malade. Ce que me disait cette femme m'a semblé très important. Chercher le pourquoi ou le comment d'une maladie, bien sûr, cela a du sens, mais beaucoup de choses sont aussi hors de notre volonté et il est important de prendre soin de soi, de chercher du sens sans se culpabiliser.
Ouais. Et si on culpabilise, eh bien, on va avoir quelqu'un pour en parler et faire partir cette culpabilité.
Voilà.
Et c'est vrai ?
C'est vrai.
Thank you.
Alors Anne-Marie, est-ce que tu peux nous parler maintenant de comment prendre soin de son moral, de son mental, voilà, par rapport au stress, un petit peu tout ce que l'on a commencé à développer?
Tout à fait. Alors, comme tu dis, le stress, c'est vraiment un élément perturbateur qui épuise l'organisme, puisque quand on est stressé, alors au début, le stress, c'est bien parce que j'ai un examen, j'ai un peu de stress, il va me permettre de pouvoir être beaucoup plus efficace dans ma rédaction ou dans ma prise de parole. Maintenant, quand c'est tous les jours ce stress répété, la libération de cortisol, eh bien, hyper stimulée, va énormément fatiguer l'organisme. Et donc, toutes ces pensées qu'on peut avoir, je vais prendre du retard, je ne peux pas me permettre d'être malade, je ne vais pas y arriver, comment je vais faire, eh bien, tout ça, c'est vraiment des pensées qui vont générer du stress au quotidien. Alors, pour cela, il y a différentes techniques, on en a déjà parlé, mais on va quand même en reparler pour justement diminuer l'anxiété qui peut être là au quotidien, la fatigue mentale. C'est de pouvoir mettre en place déjà en termes de prévention la respiration à différentes heures de la journée. Alors moi, je sais que je me suis mis une petite alarme sur mon téléphone et j'ai une petite cloche qui sonne toutes les heures de 8h du matin à 20h le soir. Et en fait, chaque fois que ça sonne toutes les heures, eh bien, je prends 3 inspirations profondément et je me coupe de ce que je suis en train de faire pour revenir à moi. Et c'est vrai que de faire ça déjà, ça permet de mettre de la distance par rapport à... Voilà, si on est affairé à faire plein de choses, je m'arrête et là, je respire. Donc, vous avez des petites applis où vous pouvez l'installer sur votre smartphone et ça marche très bien. Et vous pouvez aussi la mettre, si vous avez une réunion ou quoi, vous pouvez aussi le mettre en silencieux. Donc voilà, c'est quand vous êtes, quand les horaires vous conviennent. Franchement, je vous le conseille, ça marche très bien. Ensuite, se relaxer, bien évidemment, dans la continuité logique, la relaxation. Alors, ça peut être le soir, ça peut être aussi, vous avez une heure pour manger. Eh bien, une fois que vous avez terminé votre repas, ou avant le repas, mais vous pouvez vous mettre une petite relaxation là, et vous choisissez la durée. Hein, sur YouTube, il y en a une multitude. Et vous prenez le temps de vous détendre. Voilà. Alors, certaines personnes vont préférer le faire avant de prendre leur repas pour le prendre de façon plus détendue. D'autres préfèrent manger tranquillement et le faire après. Voilà. On parlait tout à l'heure du Japon avec les petites siestes. Ben, ça aussi, si c'est mon heure de repos, je peux très bien me faire une petite micro-sieste d'un quart d'heure dans mon bureau et c'est mon moment à moi, quoi. Je serai dos au restaurant, c'est exactement pareil, voilà. Donc, c'est peut-être aussi s'autoriser ce genre de choses. Bien sûr, je ne dis pas de dépasser la sieste jusqu'à 4 heures de l'après-midi, hein. On est bien d'accord, mais voilà.
Ah, dommage.
C'est dommage, hein. Donc, se reposer. Méditer, alors la méditation, c'est peut-être ce qu'il y a le plus difficile, hein, parce que ça veut dire arrêter progressivement toutes ces pensées. Alors, beaucoup de personnes disent « Ah mais moi, j'arrive pas, quand je me mets à méditer, j'arrive pas à stopper le flux de pensées. » En fait, c'est peut-être tout simplement accueillir qu'il y a un nuage qui passe, ce nuage, c'est la pensée, et je le laisse passer et je reviens à ma respiration. Voilà, beaucoup de personnes se découragent par rapport à la méditation, pensant que c'est quelque chose de vraiment pour les yogis, pour les gens, pour les moines dans des temples. Et non, c'est vraiment à la portée de tous. C'est un entraînement, bien évidemment, mais c'est vraiment quelque chose qui aide. C'est reconnu, ça permet de vraiment détendre le corps, ça permet de développer l'empathie, et c'est vraiment une ressource qui est très très aidante au quotidien. Voilà. Pour terminer sur la méditation, je vous dirais, commencez par 3 minutes. Voilà, vous commencez par 3 minutes par jour, quelque chose que vous rythmez avec un rituel, vous savez à quelle heure ça sera le mieux pour vous. Voilà, et puis progressivement, vous essayez d'arriver à 10 minutes. Voilà, et vous verrez par vous-même les changements. Pour certaines personnes aussi, ça peut se faire, la méditation peut se faire aussi avec une petite musique douce. Voilà, s'il y a des personnes que ça peut aider, d'autres préfèrent être dans le calme. Voilà. Vous pouvez aussi écouter une musique douce quand vous travaillez. Voilà, si ça fait partie de votre fonctionnement, ça peut être aussi un outil intéressant pour diminuer la pression. Et bien évidemment, par rapport à la gestion du stress, on a l'activité physique qui, elle, est vraiment... Alors, l'activité physique, c'est... Vous avez des personnes qui ont besoin d'aller courir trois fois par semaine. D'autres, ce ne sera pas le cas. Mais ça peut être déjà de marcher un petit peu. Voilà, je peux descendre, comme le recommande le PNNS, le Programme National Nutrition Santé, descendre un arrêt avant. Et là, je vais marcher un petit peu. Et ce petit 5-10 minutes que je vais marcher, eh bien, ça sera toujours ça de prix pour justement faire du bien à ma circulation, puisque si le sang circule bien, eh bien, je suis bien aussi. Et une petite chose que je vous partage aussi, c'est que des fois, il y a des personnes avec maintenant le développement de l'informatique, beaucoup de personnes sont à leur bureau. C'est quand vous êtes assis, de relever les pieds, comme si vous mettiez les pieds en pointe, et ça fait faire de l'exercice comme si vous marchiez. Donc ça aussi, c'est un petit exercice qui peut se faire, on est assis. Et voilà, je ne suis pas en train de marcher, mais en attendant, ça permet de faciliter le retour veineux. Voilà. Ça, c'était pour les petites activités qu'on peut faire. Et maintenant, il y a les actions que je peux mettre en place par rapport à mon mental. Alors, nous, en psychologie, on parle du petit vélo. Ce petit vélo qui est là et qui dit « Ah, mais tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Oh, tu n'es pas une assez bonne mère parce que tu... » Bon, voilà. Ce petit vélo-là, eh bien, première des choses, c'est d'en prendre conscience. Je prends conscience que les paroles que j'ai envers moi-même ne sont pas toujours bienveillantes envers moi-même. Ça, c'est la première des choses. Et une fois que j'en ai pris conscience, eh bien, je dis stop. Voilà, j'arrête ces pensées-là et je vais penser à quelque chose d'agréable. Voilà, déjà, si vous arrivez à faire ça dans votre quotidien, de prendre conscience de vos paroles envers vous-même et de dire là, non, j'arrête. Hop. Et vous pensez à quelque chose qui vous fait du bien, ce que vous allez faire ce week-end, ce que vous allez préparer ce soir à manger pour les personnes que vous aimez. Voilà, des choses simples, des choses qui vous mettent en joie. Si de préparer le repas, ça vous met en stress, non, ça ne sera pas la bonne solution. Mais voilà, c'est vraiment ce qui vous met en joie. Donc, arrêtez ce saboteur-là et mettez-vous en joie. Donc, Michel nous parlait de l'importance de l'environnement. Je vous ai parlé aussi de l'alimentation, on a parlé du repos, on a parlé des loisirs. Et vraiment, c'est à vous de voir ce que vous pouvez changer dans votre quotidien. Alors, pour les personnes qui aiment le théâtre ou pas, mais en tout cas, ça fonctionne bien. vous avez la rigolothérapie ou la thérapie par le rire, qui est aussi un très bon outil pour apprendre à rire. Alors, vous pouvez essayer cet exercice. Vous vous forcez à rire. Et le fait de se forcer à rire, vous allez détendre vos zygomatiques. Et là, eh bien, en agissant sur vos muscles, eh bien, un signal neurologique arrive au cerveau. Et lui, en fait, rire, il entend joie. Il connecte joie. Et donc, ça va modifier votre météo intérieure. Donc, ça aussi, c'est un autre petit outil que vous pouvez mettre en place. Voilà. Et puis, accueillir l'idée qu'il y a des choses qui peuvent être changées et d'autres qui ne peuvent pas. Donc, ce que je peux changer, je le change. Mais ce sur quoi je n'ai aucune action, eh bien, j'en fais le deuil et je laisse couler comme c'est, quoi. Voilà. Autre point, ne pas rester isolé. Alors, être malade, ça peut parfois nous isoler des autres. C'est sûr que certaines pathologies peuvent isoler. Et on l'a vu aussi pendant la période du Covid. Alors, on a vu qu'il y a eu énormément de dépression pendant le Covid, hein, Michel. Et si une personne reste seule plusieurs jours, qu'elle ne voit personne, qu'elle ne parle à personne, elle peut se refermer sur elle-même, se laisser aller. Et là, ça va impacter sur le sommeil, l'alimentation, l'hydratation. Enfin, dans le sens excès comme manque, puisqu'après, il y en a qui peuvent aussi basculer dans des addictions. Et là, on se rend compte que, bien évidemment, l'entourage avec la famille, les amis, eh bien, il a vraiment un rôle très important. Donc, c'est vraiment important de s'entourer des personnes qu'on aime, quelles qu'elles soient. Après, si on est seul chez soi, on peut prendre le temps d'appeler quelqu'un qui va être d'une bonne écoute pour soi. Vous avez aussi, alors si vous êtes seul et que vous n'avez personne, malheureusement, ça peut arriver. Eh bien, il y a des numéros auxquels vous pouvez parler, comme SOS Amitié, des écoutes téléphoniques qui sont là pour justement vous accompagner.
Oui, tout à fait. Hein? Il faut y penser.
Voilà, c'est important de parler parce que justement, ils font un sacré travail, ces bénévoles aussi. Ça agira immédiatement sur le moral parce qu'il y aura un sentiment de soutien, d'appartenance. Et quand le moral va mieux, eh bien, il a immédiatement, enfin rapidement en tout cas, un impact sur l'état général. Donc, voilà. Ne restez pas isolé, parlez, allez rencontrer parler avec votre voisine, les personnes que vous aimez. On refait un petit point sur la bienveillance envers soi-même, hein? Donc, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment une idée essentielle d'arrêter de se juger et être bienveillant envers soi-même. Ce jugement qui est là. Et je dirais, en langage des oiseaux, dans le jugement, il y a le juge qui ment. Donc, on n'est même pas dans la réalité, puisque le jugement, donc, on porte sur soi un regard qui vraiment peut être délétère. Donc, prendre le temps d'apprendre à se parler avec bienveillance, arrêter, excusez-moi de le dire, de dire « Oh, je suis nulle, oh, mais je suis con !» Et c'est le genre de langage qu'on peut avoir à longueur de journée. C'est vraiment aussi enlever ça de son langage quotidien. Et vous en ressentirez tous les bienfaits de vous parler avec bienveillance. Et puis, par rapport à cette bienveillance, alors bien évidemment, quand on est malade, c'est pas de se laisser aller, c'est de s'écouter. C'est différent. Eh, tu en as parlé tout à l'heure. Et des fois, c'est bien aussi de se mettre le petit coup de pied aux fesses pour justement se dire, là maintenant, allez, j'ai touché le fond, hop, je remonte. Donc, le corps nous envoie des signaux et s'il ne les écoute pas, ils vont s'amplifier jusqu'à dépasser le point de rupture où la maladie peut devenir irrésistible, ce qui peut nous faire penser, Michel, au cancer.
Oui.
les maladies où là maintenant après ça va nécessiter de longs soins alors que certaines choses auraient pu être anticipées, enfin
peut-être
voilà, à réfléchir, voilà. Eh bien, après ces quelques conseils sur cette hygiène de vie au quotidien, Michel, tu peux nous dire un petit peu comment éviter ces rechutes ?
Oui, alors avant de conclure, il nous faut quand même parler de quelque chose d'important aussi, c'est d'éviter les rechutes. Alors, ça va être très bref, mais l'idée, c'est qu'il faut reprendre progressivement et tirer un peu les leçons de ce qui a été vécu pendant la maladie, comment on a réagi, voilà, comment on a modifié peut-être nos habitudes, notre environnement, etc. Donc ça, on peut en tirer des leçons. Et on ne va pas reprendre notre vie et notre activité tout de suite exactement pareil. Il va falloir reprendre progressivement. C'est ça quand même l'idée. Si quelqu'un reprend le sport intensément dès le premier jour, la fatigue reviendra très vite parce que l'organisme ne s'est pas encore totalement stabilisé. Donc, il y aura un risque de rechute immédiate. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un effort plus léger, progressif, pour le travail, si on peut, peut-être, prendre de plus petites pauses dans la journée. Ça, c'est à voir chacun si on peut organiser un petit peu son travail parce que ça va permettre à l'organisme de se remettre et de pas rechuter. Donc, si une personne est tombée malade à cause du stress et du manque de sommeil, bien, quand on est guéri, il faut évaluer la possibilité donc, de réduire la charge de travail, de dormir plus et aussi, et je dirais surtout, d'avoir plus de temps pour sa vie personnelle avec une meilleure qualité de vie qui sera la meilleure prévention dans la maladie. On a parlé du Japon, on a parlé de l'Asie, bon, on peut parler de l'Europe, voilà, des États-Unis, des Occidentaux. On a tendance aujourd'hui à vouloir faire trop, faire plus, faire toujours plus. Et il faut vraiment arriver à avoir une vie personnelle. On voit beaucoup de jeunes qui n'ont plus de vie personnelle parce qu'ils travaillent trop. Et à un moment donné, voilà, on arrive au burn-out. Donc, je dirais vraiment tirer les leçons de la maladie. Et puis alors, en conclusion, on va reprendre un petit peu ce qu'on a déjà dit. On enfonce un peu le clou. Mais il faut vraiment écouter son corps, respecter ses limites et prendre soin de son mental, prendre soin de son esprit. Nous sommes un tout. C'est vrai que la maladie nous rappelle quelque chose d'essentiel. On n'est pas des machines. Prendre soin de soi, ça doit être une priorité, même quand tout va bien. On a parlé de prévention. Et quand on est malade, c'est sûr qu'il faut y faire attention. Mais vous savez, dans la médecine chinoise, ce qui est très intéressant, c'est que le médecin, on ne le payait pas si, quand on était malade. On le payait que quand on était en bonne santé. Pensez à contacter les associations qui peuvent vous aider. Et puis aussi celles qui peuvent donner de la joie. On a parlé de la rigolothérapie. Voilà, il y a plein d'autres idées encore à creuser. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là.
Oui.
Avec Anne-Marie, on va vous dire au revoir.
Au revoir.
Pour une nouvelle émission qui portera sur les questions que se posent les enfants sur la mort. Dis maman, c'est quoi la mort ? Merci.
Eh bien, on se retrouve le 5 juin.
Le 5 juin. Au revoir.
À bientôt.
À bientôt.